Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nick, la radio.
Yo, you're listening to Nick, la radio.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Nick, la radio qui émet ses ondes levées depuis la Love Room du salon Who's Next. Nous sommes invités par la Fédération française du prêt-à-porter féminin avec une belle proposition. Parler avec celles et ceux qui la font de la mode d'aujourd'hui et de demain avec une focale pour cette émission spéciale qui forcément nous plaît bien. Le sexe est-il une tendance parmi d'autres et qu'est-ce qu'il permet de dire et de dévoiler de la société? Loin d'être superficiel, la sexualité et ses représentations sont évidemment politiques, surtout quand elles prennent la forme de bijoux, de vêtements, de lingerie que l'on porte et que l'on affiche fièrement. Sex positivity est un des mots d'ordre de notre émission, encore qu'on va le discuter. Émission qui se fait une joie de discuter avec Fanny Boucher. Vous créez des bijoux qui ont la forme de seins, qui s'appellent Baise-moi ou qui racontent des histoire entre amants. Votre marque s'appelle Bengla Begum. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, Carnet Bolente, une marque de vêtements unisexe, indépendante, qui prône une sexualité libre et sans tabou qu'elle dessine et dont elle nous permet de porter haut et fort les couleurs. Bonjour Théodore.
Bonjour,
merci
aussi
d'être avec nous. Et enfin Renaud Cambusa, vous êtes à l'origine photographe et depuis quelques années déjà directeur de la création de Chantel, maison historique de lingerie qui a décidé d'embrasser à pleine bouche le futur et de s'adapter aux sexualités contemporaines en habillant tous les corps. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes et à tous d'être avec nous.
You're listening to Nick, la radio.
Alors, dans cette conversation, on va essayer d'atteindre le point Q pour savoir ce que le sexe permet de raconter de nous, du monde auquel on aspire, des forces conservatrices auxquelles on fait face avec cette grande question, pourquoi et comment être transgressive et transgressif en 2024 ? Si le désir a toujours fait vendre, il peut faire aussi bien d'autres choses et on va en discuter pendant une heure avec une première question. On dit de chacune de vos marques, pour différentes raisons, qu'elles sont sex-positives. Comment est-ce que vous entendez cette notion ?
Ah, je peux tester la version simple. Ce serait envisager et vivre sa sexualité avec liberté, ouverture d'esprit, en essayant d'éviter la stigmatisation et les défauts de diversité. C'est la courte, il y en a plein.
C'est la courte. Renaud ?
Pour ma part, et dans ce qu'on essaie de faire chez Chantel, je ne sais pas si on est perçu comme une marque sexe positive, mais sans doute positive. Et dans le cas du sexe et de la sexualité, je pense que c'est l'idée et l'objectif pour nous d'essayer d'appréhender ce sujet avec le même regard, la même ouverture d'esprit que ce qu'on peut faire sur un certain nombre d'autres sujets et enjeux sociétaux qui nous paraissent importants à faire émerger, défendre et accompagner dans la mesure de nos possibilités.
Alors moi, quand on me dit que je suis une marque sexe positive, je l'entends d'abord comme un peu un cri de soif, comme l'idée qu'il ne se dit pas grand-chose en fait, de positif sur le sexe. Donc j'entends plutôt ça comme un besoin d'en parler. Et moi, avec mon médium qui est les bijoux, je dirais que c'est en faire quelque chose de beau, qui n'est ni un tabou, ni quelque chose de sacré, mais ni anodin. Donc quelque chose de beau, en fait, quelque chose d'agréable que les gens aiment faire.
De le replacer dans le discours, c'est aussi ça, chacune et chacun, ce que vous faites, c'est de placer la sexualité, avec tout ce que ça charrie comme imaginaire et comme besoin de défense politique, au sein de la conversation. Ça peut faire écho aussi à une sex-négativity dont on ne parle jamais parce qu'elle n'existe pas, mais à un vieux monde qu'on essaye un peu d'enterrer. Vous avez l'impression que la notion de sex-positivity, elle est arrivée quand dans les discours en France ou peut-être ailleurs dans le monde ?
Il y a évidemment la révolution sexuelle des années 70 où je crois que le terme est défini à ce moment-là, mais il est toujours défini, ça englobe énormément de valeurs, énormément de termes, mais ce serait le démarrage. Mais par contre, le sex negativity est un terme qui commence à apparaître pour les très jeunes générations, okay. En opposition justement
à sex positivity.
Ouais, ça.
Et pour vous ?
Oui, je rejoins ce que Théodore a dit. J'ai l'impression, alors je ne suis pas un expert, je n'ai pas fait de recherche poussée sur le sujet, mais j'ai l'impression effectivement que c'est un terme qui a émergé et qui s'est exprimé de manière plus forte, à minima dans les médias, plus ou moins de manière corollaire aux différentes vagues féministes. Alors on peut s'accorder sur combien de vagues féministes y a-t-il eu. Là, on parle de la quatrième qui a émergé depuis une dizaine d'années, a priori. Avec différentes vagues, peut-être au sein de cette vague-là, beaucoup portées par les plateformes digitales et les réseaux sociaux. J'ai le sentiment, encore une fois, dans notre industrie, que là, récemment, c'est vraiment ça qui a remis ce terme sur le devant de la scène et qui vient nourrir un certain nombre de réflexions et de conversations autour du sujet du sexe.
Et c'est un sujet qui est porté à l'origine par les individus, par les réseaux sociaux, c'est ça, hein, c'est la parole individuelle qui s'exprime. Est-ce que c'est celle-ci que vous, en tout cas en tant que marque, vous avez entendue et reçue, la parole aussi de sociologues et de personnes spécialisées sur le sujet, plutôt que de marques qui auraient pris les devants en la matière ?
Je peux peut-être tenter de répondre en premier. Je crois que c'est un ensemble de choses, en fait, et de manière générale, en tout cas ce qu'on essaie de faire pour essayer de faire des propositions pertinentes, notamment encore une fois sur ce sujet-là qui est un sujet potentiellement un peu casse-gueule, en tout cas pour une marque comme la nôtre et possiblement pour aussi ce que moi je représente, un homme hétéro, marié, blanc, avec des enfants. Et donc de manière générale, c'est essayer d'être à l'écoute d'un certain nombre de choses. Donc il y a bien évidemment les réseaux sociaux avec une parole individuelle qui se fait entendre davantage. Il y a bien évidemment un certain nombre d'écrits, il y a un certain nombre d'activistes, d'écrivains, penseurs ou féminins qui ont théorisé le sujet, l'ont accompagné, les médias bien sûr. Et donc c'est tout ça qui à un moment donné, d'abord plutôt à la marge, mais progressivement, je pense, fait émerger ce type de sujet.
On fait remonter la réflexion. On va voir que la mode et la sexualité ont toujours avancé un peu main dans la main. Ça a toujours fait vendre le désir, ce que l'on montre, ce que l'on ne montre pas, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On va essayer de déconstruire et de reconstruire les choses, hein, histoire de ne pas laisser les auditrices et auditeurs un peu sur leur faim. Mais on va essayer aussi de reprendre à vos débuts en tant que marque, mais pas simplement en tant que spectatrice, spectateur. Est-ce que vous sauriez vous souvenir d'une image, une première image, qu'elle soit issue de la publicité, d'une une de magazine ou de la mode, qui a éveillé, qui a suscité votre désir?
Alors moi, je me souviens très bien. J'ai grandi dans une petite ville de 20 000 habitants et j'étais absolument fascinée par le magazine Colors, qui était le magazine de Benetton.
Et, ouais.
Et donc, il y avait un magasin Benetton dans cette petite ville. Et en sortant du collège, régulièrement, je passais demander à la dame si elle avait reçu Colors. Et quand c'était le cas, ce qui était à peu près, je crois, deux fois par an, parce que c'était assez rare, Colors, je le rapportais chez moi et je m'enfermais dans ma chambre et je tournais chaque page. Béate d'admiration.
Qu'est-ce qu'il y avait de désirable dans ces pages ?
C'était stupéfiant. Quand les images d'Olivier Toscanini, elles étaient stupéfiantes. Et à l'époque, en fait, j'ai su que 20 ans plus tard, que c'était pas seulement Olivier Toscanini, mais c'était aussi Tibor Kalman, ce graphiste génial, qui avait créé cet objet, en fait, de désir. Et je pense que si j'avais su à 15 ans qu'on pouvait faire ça, que en fait c'était un métier et pas quelque chose qui tombait des cieux de ce petit magasin deux fois par an, je pense que ma vie aurait été différente. Ouais.
C'est franchement, ça rappelle de bons souvenirs. Ouais. Vous avez quoi comme
un souvenir des mois érotiques?
Alors
intime.
Érotique lié
moi,
à la mode
parce
plutôt.
Que je me suis rendu compte en préparant cette question que mes trois un peu souvenirs des mois érotiques étaient tous très sexistes.
Bah, c'est ce qu'on va voir, c'est
j'ai que... un Manara, je pense, ouais, dans la bibliothèque de mon père, qui est un grand classique, je pense, pour beaucoup de gens.
De l'éveil, oui.
Ensuite, je crois qu'il y a une scène dans Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, qui est globalement
un viol
d'une nonne. Et ensuite, un peu plus tard, American Apparel, qui est aussi, avec le recul, très problématique. Donc voilà sur quoi je suis formé.
C'est ça aussi, c'est qu'on grandit dans un monde qui était façonné par le male gaze qu'on va essayer, le male gaze slash les prédateurs aussi. Et pour vous, Renaud ?
Et moi, fin des années 90, donc je suis adolescent, au début de l'adolescence, et à l'occasion d'un voyage en Angleterre, je découvre un peu la culture UK, notamment dans la mode, par le biais des magazines. Et en l'occurrence, je me souviens très bien d'un numéro de Dazed, qui ensuite m'a amené à découvrir ID, The Face, enfin tous ces magazines-là. Et puis être vraiment, avoir été profondément marqué par notamment une série de Corinne Day avec Kate Moss en l'occurrence, et puis après les images de Sims avec une mannequin comme Stella Tennant, Alexander McQueen qui était un talent enfin plus émergent, vraiment installé désormais, mais je me souviens avoir été très 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 marqué et happé par cette culture là et la façon dont notamment la sexualité et la désirabilité étaient envisagées par cette scène là et à contre-courant, se voulait à contre-courant vraiment de l'esthétique très glamour et ce désir de perfection dicté par les États-Unis hein, clairement, et le phénomène des super modèles. Enfin, vous avez peut-être vu, il y a un documentaire sur Apple TV là dont on parle pas mal. Donc c'est je me souviens très clairement à l'occasion de ce voyage là d'avoir été assez touché par ça.
Ça, c'est de l'avant-garde, on parle vraiment des magazines, en tout cas des circuits un peu de underground qui ont fini par un peu prendre par les réseaux sociaux la parole et prendre la place. Est-ce que c'était déjà une sexualité qui était déconstruite ou en fait c'était une autre manière de reproduire un autre type de male gaze?
Ta question porte vraiment sur ça là,
précisément
sur
l'underground.
Je crois pas, enfin en tout cas je crois pas que c'était une déconstruction de la sexualité. Je pense plus que c'était un autre regard et l'envie d'amener plus d'authenticité dans la façon de représenter ça, avec un regard qui restait quand même, je sais pas s'il était masculin, mais je le qualifierais pas de déconstruit en tout cas. Je pense qu'on restait quand même sur ces normes là, mais c'était une première tentative un peu différente, vraiment le côté anti-fashion, aller chercher une énergie plus brute et trouver de la beauté dans des choses plus authentiques, des choses du quotidien. Je pense notamment, il y a une image chez Corinne Day qui est pas forcément, enfin je sais pas si elle éveille un désir érotique, je pense pas, mais il y a une photo d'une culotte tachée de sang comme ça, posée sur le sol et qui avait beaucoup fait réagir à l'époque. Et voilà, et c'est des façons d'adresser, alors peut-être pas la sexualité, mais si quelque
le
part,
sexuel,
en tout cas
en
la
fait.
Féminité, ouais. L'intimité et le sexuel.
Ouais. Ça va de pair. Alors ça, c'est pour vos expériences personnelles. On va essayer d'évoquer maintenant vos regards professionnels sur les marques que vous avez façonnées. Carnet Bolente, on va commencer avec vous. Vous représentez donc une sexualité qui est libre, sans tabou. Vous essayez de slalomer entre les injonctions aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le départ de cette marque-là qui vous a peut-être un peu dépassé par moment?
Ouais, le départ, comme on le raconte souvent, c'est une blague. C'était un peu l'époque où la mode était peut-être un petit peu plus normcore il y a 10 ans. Il y a moins de motifs, moins de représentations en général.
Moins de couleurs aussi.
Ouais, voilà, exactement. Moins de couleurs. On était étudiants en art à l'époque, donc entourés d'artistes, de motifs, de peintures, etc. Et on se faisait broder nos vêtements nous-mêmes parce qu'on manquait de choses dessus. Et honnêtement, on ne se souvient même pas nous-mêmes pourquoi, mais on se retrouve à un moment à broder des positions pornographiques dessus.
C'était quoi les premières positions? C'était quoi comme... Parce que maintenant, il y a tout un univers, c'est peuplé d'un...
On les avait nommés « Baisse sur la plage » et « Cunis sur la pelouse ».
Voilà, donc c'est classique.
C'est évident. et ça a démarré là-dessus. Mais je dirais qu'on n'avait pas du tout l'intention ni la conscience de faire quelque chose de sex-positive à l'époque.
Ok.
C'est quelque chose qu'on a conscientisé plus tard et essayé de construire plus tard, plus logiquement et avec pour que ça reflète aussi nos valeurs.
Vous vous sentiez transgressif à l'époque ?
Non, absolument pas. On était jeunes avec assez peu de conscience sur ce qu'on faisait, je crois.
Et comment les choses ont commencé à vous dépasser justement ? Comment est-ce que ça, pour quelles raisons ça a touché les gens et c'est devenu quelque chose de plus politique qu'une bonne blague entre copains ?
Mais quand on a commencé à recevoir des messages de gens qui nous suivaient pour nous dire que porter nos t-shirts leur avait permis de faire leur coming out en famille, on s'est dit « Ah, il se passe peut-être quelque chose, il faut peut-être qu'on se mette à penser ». Donc ça, c'était des démarrages, mais aussi au-delà de ça, on parlait du sexe fait vendre, c'est un peu péjoratif de le présenter comme ça, mais c'est une réalité. Et on a vu une réaction forte de magasins, de gens de l'industrie de la mode qui étaient juste intéressés par le projet. Donc ça a vraiment fait effet boule de neige, quoi.
Est-ce que vous avez fait en sorte d'avoir un projet? Parce que quand on consulte vos sites, quand on regarde les actions concrètes que vous essayez de mener, l'idée, c'est pas que de montrer ce qui était jusque-là un peu invisible. L'idée, c'est de tenir un discours, d'essayer d'avoir une pédagogie aussi. Là, vous l'avez conscientisé à quel moment le besoin d'être plus... Parce que vous étiez naturellement plus qu'une marque, mais le besoin de dire autre chose?
Ouais, je dirais qu'autour de la... Ouais, quand on a commencé à recevoir ces témoignages, ça nous a... quelque part demander d'avoir un positionnement et aussi c'est nous impliquer dans une responsabilité. Donc ouais, ça a pris 2-3 ans, je pense, à ce qu'on construise cette vision.
Et alors, comment on fait évoluer son imaginaire ? Vous racontez le début des premiers dessins que vous aviez. Depuis, il y a plein d'autres choses qui sont nées, qui ont pris forme, ouais, sur vos vêtements. Comment vous avez travaillé ? Avec qui vous travaillez ? Comment vous-même, vous travaillez à renouveler votre imaginaire sexuel ?
On a la chance qu'on soit dans ce moment de notre histoire, de cette société, où beaucoup de sujets voient le jour. Enfin, sont renforcés, je dirais. Ils existaient déjà, mais ils sont de plus en plus renforcés, portés et, par beaucoup de témoins différents. Donc sur le renouvellement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on considère que la marque est un label, que la mode est un outil, que ça pourrait potentiellement s'exprimer à travers beaucoup de choses, et on a un pouvoir d'adaptation très fort où je dirais qu'on a un style qui est défini par notre identité en tant que créateur, mais pas vraiment un style de marque très fort qui nous permettent de changer, d'évoluer, de bouger avec les thèmes et ce qu'on a envie de traiter.
De s'adapter. Ouais. Il y a aussi la question de l'exportation. Ouais. Quand on fonctionne, quand on est une marque française, on s'exporte. On fait donc face à un autre type de public. On a tendance à penser en général que les Français ont un rapport assez libéré à la sexualité. Est-ce que c'est le... Vous voyez... Alors, libéré s'entend dans une sexualité hétérosexuelle, bien quadrillée par une certaine intimité, un certain érotisme, mais quand même on a tendance à imaginer ça. Est-ce que vous faites face à la question de, est-ce qu'on a tous la même appétence à travers le monde, toutes et tous, pour le sexe ? Est-ce que vous vous restreignez par moment ? Est-ce que vous vous dites, si on vise tel territoire, on ne va pas représenter les mêmes choses ?
On ne fait pas vraiment de différence entre les territoires. Par contre, on a dans la marque une variable dans la création qu'on a appelée l'échelle du cul. On a plus des choses qui vont traiter d'amour, de relations, de genre, de positionnement, des choses plus soft, érotiques, et des choses plus porn, provocatives, qui en fait trouvent leur place tout le temps, plus ou moins partout, mais de manière différente. C'est plutôt ça, mais c'est vrai que là où on essaie de parler de l'universalité du sujet de la sexualité, ouais, je peux prendre un exemple assez simple. Par exemple, à un moment, nos personnages qu'on représentait sur nos vêtements, on leur faisait porter des chaussettes pendant qu'ils faisaient l'amour, parce qu'on considère que c'est quelque chose que tout le monde a fait probablement partout.
C'est drôle aussi, c'est une blague.
Et l'humour, et du coup, c'est plus sur ce pan-là qu'on va essayer de souligner les petites choses qui vont rendre perceptible le fait qu'on vit tous plus ou moins des expériences similaires.
Ok, la spécificité ou le...
De la chaussette.
De la chaussette. C'est, on dirait le nom d'un essai un peu foireux de philosophie. Fanny, vous allez aussi nous raconter, vous, les bijoux, vous l'avez dit, vous avez aussi créé des bijoux qui parlaient une back boom notamment, pour essayer de mettre sur le sujet sur la table, pas par goût de la provocation, mais par simple envie de replacer le sujet au milieu. C'est quoi l'histoire de votre marque et de ses débuts ?
Alors en fait, moi, j'étais hyper lassée du bijou comme quelque chose qui appartenait à l'univers purement de l'ornementation ou de la possession amoureuse. Dans les bagues de fiançailles, dans les alliances, il y a quelque chose en fait qui marquait la possession. Mm. Et vraiment, ça m'agaçait, et je voyais nulle part de bijoux qui parlent de ce qui m'animait moi, c'est-à-dire pas seulement l'ornementation ou être plus jolie, et pas seulement, en fait, finalement, trouver le prince charmant. Donc, j'avais envie de bijoux qui parlent d'autre chose, de guerre, d'histoire, de mémoire.
Qui portent des messages, concrètement.
Et de sexe, en fait, parce que c'est quelque chose qui m'anime et qui anime beaucoup de gens, en fait. Et donc, le premier bijou que j'ai dessiné et qui m'a un peu dépassée aussi, c'est cette bague en forme, c'est cette chevalière en forme de sein. Et c'est parti aussi au début d'une blague, en fait. Je voulais me moquer gentiment des gens qui portent des chevalières.
Donc, qui associent un univers très aristocratique en France,
coincé,
très rigide.
En fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui prendrait le contre-pied avec de l'humour de cet objet, en fait, mieux qu'un sein, en fait. Et donc, j'ai voulu m'approprier ce code hyper bourgeois pour en faire quelque chose de pas du tout bourgeois. Et finalement, j'en ai donc fait une chevalière qui est en fait censée représenter des armes de famille. Mmh. En fait, souvent, c'est un blason familial.
Le sein est une arme de famille,
pas mal. Justement, à la fin, en faisant cette blague, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas la chevalière ultime, le sein ? Est-ce que c'est pas ça, une famille, finalement ? Donc, je me suis un peu fait prendre à mon propre jeu, certes, mais ce qui m'a dépassé un tout petit peu et en bien, bien sûr, c'est l'accueil à ce bijou.
De quel côté l'accueil du point de vue du public, ouais, qui est traditionnel
l'écho,
aussi
tout le monde en fait.
Tout le monde.
Absolument tout le monde. Et d'ailleurs, on m'a souvent contacté pour en faire l'emblème de quelque chose ou d'autre chose ou d'une lutte. Et j'ai toujours voulu que ça reste un objet que les gens puissent s'approprier pour dire ce qu'ils voulaient du sein dans leur vie en fait. Donc les femmes se le sont approprié comme un symbole de féminité, symbole de la vie d'une femme en fait, de ses chagrins, de ses failles, de ses joies, de ses forces. Et je les ai laissées avec beaucoup d'émotion, en fait, prendre possession de ce bijou qui était né d'une blague.
D'une blague. Continuez à faire des blagues. On va continuer, nous, à discuter sur ce plateau, notamment du fait que les chevalières se lèguent. Hein, donc, vous êtes en train de créer une lignée de bijoux. On écoute juste un peu de musique.
Se gasta, se gana. Nah. Me gustan los cueros caros y también la barata. Enciendo, comame en huevo y me saquen la leche. Mami, yo soy cansado, de mí no te apeche. Nah. Un día está conmigo, después está con este. Te voy a dar puñalada que ni peste, tía.
Descuartizarte solo para divertirme. Hago todo lo que es necesario para reírme. Frío y lento, me río violento. Un cuento de hadas, un poco sangriento. Se me sienta con mi quinta hit. Son las 12, aquí está tu hit. Soy la princesa de este fucking beat. De aquí si no quieres ver sangre.
Contigo no me cotizo, si nos involucramos fue porque Dios lo quiso. Tú tienes lo tuyo, tampoco por beneficio, mami. Tú estás dura, contigo no me cotizo, si nos involucramos fue porque Dios lo quiso. Tú tienes lo tuyo, tampoco por beneficio, mami.
Nous parlons de sexualité, de sex-positivité dans la mode avec nos invités Carné Bolente Chantel et Bengla Begum. Alors Fanny, il y a quelque chose de très très moderne dans ce que vous faites, on l'a dit, mais il y a aussi un héritage dans lequel vous vous inscrivez, un héritage dans un rapport à la nudité qui était beaucoup plus simple. Vous vous inspirez de quelles œuvres, de quel type d'art en général au moment de la création de votre ligne de bijoux ?
Alors mon univers, il est vraiment très contrasté. Il est vraiment nourri de choses modernes et on peut même dire un peu kitsch, et de choses de référence plus érudites, sophistiquées, je sais pas. Donc par exemple Star Wars et les Sumériens, c'est vraiment un peu mon scope en fait.
Débrouillez-vous.
Et en fait j'aime le contraste et j'aime quand ça fait pchit.
Pchit au sens où ça crée une effervescence,
ouais,
une
ça
réflexion.
Crée que quelque chose se passe quand on les met ensemble. Donc, par exemple, j'ai fait une bague en forme... Pour faire écho à la bague sein, j'ai fait une bague fesse pour laquelle on a modélisé les fesses d'une statue du Louvre qui s'appelle Marcellus et qu'on a appelée Marcellus d'ailleurs. Et on l'a d'ailleurs, parenthèse, appelé Marcellus parce qu'on avait trop de problèmes avec la bague boob sur les réseaux sociaux. On se faisait
striker en permanence. On va parler du strike. Ouais. Mais ça pose la question de est-ce qu'on est devenu une époque puritaine ? Si oui, à quel moment ? Est-ce que les choses... On a l'impression d'être dans une liberté sexuelle et en même temps, il y a d'autres moments, quand on va au musée notamment, on se dit des seins, il y en avait partout. Dans les peintures, dans toutes les peintures, on voit des seins, on voit des fesses. Elle s'était aussi peut-être pas associée de cette manière-là à une sexualité. Vous représentez, Renaud, une maison historique, 1876, si je ne me trompe, Chantel. Vous avez repris en 2018. Quand vous reprenez la direction artistique de Chantel, comment sont les choses au sein de Chantel, mais au sein de la lingerie française en général? Quel est le rapport à la monstration des corps en général? Faites un petit état des lieux au moment de votre arrivée.
Oui, donc quand j'arrive, j'arrive en 2017 et on est quelques mois avant le mouvement MeToo. Et donc moi, j'arrivais plutôt de la mode, puisque bah, tu l'as dit, j'ai un parcours plutôt photographe avant. Et j'ai été frappé, je suis arrivé dans la lingerie un peu par hasard, ça s'est fait sur une rencontre, et j'ai été frappé par un certain nombre d'éléments de constat. Et un des enjeux et un des éléments qui m'a motivé pour rejoindre ce groupe, qui avait envie de bouger, c'était d'essayer de... Bah, il me semblait que la lingerie avait toujours eu, et aujourd'hui plus que jamais, une dimension sociétale, voire politique, forte, et qui avait avec Chantel la possibilité d'ouvrir de nouvelles voies. Et donc les éléments de constat, c'était omniprésence des stéréotypes hyper hétéronormés, objectification et sexualisation du corps masculin, omnipuissance d'un regard, du corps féminin, pardon, oui. Omnipuissance d'un regard masculin, donc le male gaze, et puis une sorte de domination, oui, des standards patriarcaux. Donc tout ça était quand même... Et puis, dans l'ensemble aussi, en termes de fond de marque, alors ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais ce qui m'avait frappé vraiment à l'époque, c'est la pauvreté, en fait, des propositions qui étaient faites. On voyait des choses émerger quand même, à droite, à gauche. Mais
chez
on était encore
chez
les jeunes marques, plutôt chez les jeunes marques. Alors, aux États-Unis, je pense qu'il y avait vraiment une dimension plutôt... c'est souvent de là, quand même, que ça part. Sur des DNVB, donc les marques digitales, il commençait à y avoir des propositions assez tranchées, on va dire, sur le sujet. En Europe, ça s'exprimait plutôt chez ces marques digitales, plutôt sous une forme de manière beaucoup plus romantique, en fait, et quand même un peu moins disruptive. Et puis après, sur vraiment les retailers, on était encore en pleine gloire des années Victoria's Secret, repris en France par un autre retailer, repris par différents retailers et puis différentes marques. Et donc voilà, donc c'était vraiment un carcan et un cadre assez fort. Et me semble-t-il, assez poussiéreux. Et donc l'objectif dès le début, c'était vraiment d'essayer de se servir de cette magnifique plateforme qu'était Chantel et de l'envie qu'il y avait de se moderniser, parce que je pense que c'était vraiment ça le point de départ, pour essayer de faire valoir un certain nombre de propositions et puis essayer d'engager, en tout cas à mon échelle, notre responsabilité de marque leader, parce qu'on est une marque plutôt leader dans ce secteur-là, au service d'une société plus juste et plus respectueuse des êtres qui la composent, et puis d'essayer à notre niveau, bien sûr, et à notre échelle, de contribuer à l'émergence et l'affirmation d'un certain nombre de mouvements et de tendances. Donc c'était ça le constat. On a démarré assez fort et on a shifté assez vite, ce qui n'a pas été très bien compris en interne d'abord, avec nos clients, parce que donc la particularité, nous, c'est qu'on est et en retail et en wholesale. Donc, enfin, pour rendre ça un peu plus simple, on est parfois en direct dans nos propres environnements de vente, et puis on est aussi beaucoup revendu. Donc on a des clients B2B. Et pendant 2 ans, ça a été assez complexe.
Vous le sentiez comment, la complexité? Parce que typiquement, à quel type de réaction vous avez fait face en interne, en externe? Et comment vous avez gardé le cap en certain de se dire, en fait, c'est un changement qui est indispensable, sans quoi on appartient à un ancien monde?
Alors, je pense qu'en interne, et de manière générale, en fait, je pense que on l'a évoqué un peu tout à l'heure en off. Je pense qu'on était vraiment, enfin, c'est des codes qui, les codes de la lingerie étaient là depuis des décennies, en fait. Ils ont suivi quand même un certain nombre de mouvements, et chaque décennie a charrié son lot de stéréotypes. Mais là, on sortait des années porno chic, grosso modo, qui se sont un peu étendues sur les années 2010. Et donc, vraiment, on était dans une industrie qui était baignée dans ces codes-là, en fait, et avec du coup un certain nombre nombre de gens qui, je pense, se questionnaient. En fait, fondamentalement, peut-être n'adhéraient absolument pas à ça, mais se questionnaient assez peu sur le sujet. En fait, c'était les codes en vigueur, c'était les standards en vigueur, le désir, parce que c'est la question du désir, de la désirabilité, la part de rêve dont on parle souvent en publicité, parce que ce qui a gratté le plus, hein, vraiment, c'est les codes images, en fait, oui. Sur les produits, ça, c'est encore un autre sujet. Et donc le temps que je pense que ça a été vécu comme quelque chose d'irrespectueux en fait, et que les gens de manière générale, quels qu'ils soient en interne ou en externe, étaient pas prêts en fait à se voir représentés, parce que c'est de ça dont on se parle, sous un angle qui se voulait plus authentique, plus réaliste, et voilà, et ça a pris un peu de temps. Et
ils trouvaient ça moche, ils trouvaient ça violent, ils trouvaient ça, c'est quoi comme parce que l'irrespect, ça peut blesser de différentes manières, ouais. Mais quels étaient les mots précisément?
Oui, je pense qu'ils trouvaient ça, moche. Je pense qu'ils trouvaient ça, en fait, irrespectueux dans le sens où comme on a maintenu ce cap et comme j'ai tenu à maintenir ce cap et que j'ai eu la chance aussi d'être soutenu par Patrice Crête, ses enfants, Guillaume Crête, parce que Chantel est un groupe familial et à la tête duquel il y a donc Patrice et Guillaume Crête, et qui ont soutenu cette démarche-là, même si ça n'a pas toujours été évident. Je pense qu'il y avait, en plus de ça, comme on a maintenu ce cap, le sentiment qu'on n'avait pas envie de les écouter en fait, et que leur avis ne comptait pas, lequel avis était dans le fond nourri de peu de choses en fait, à part voilà, ça ce sont mes codes, c'est ceux que j'ai toujours connus, et donc on s'attend à ce que vous les perpétuiez en fait, sachant qu'en face le reste de l'industrie n'a pas bougé, ils ont bougé un peu après mais n'a pas bougé. Donc il y a eu 2-3 années jusqu'en 2019 qui ont été relativement complexes. Après, pour autant, on a réussi assez vite à fédérer des nouvelles communautés, oui. Des nouvelles féminités, des nouvelles clients. Donc les résultats étaient là en fait. Donc ça se voyait et ça nous a permis de. C'est aussi ce qui nous a permis de tenir le cap. Et puis ensuite, il y a quand même eu au bout d'un moment une sorte d'acception autour de. Enfin voilà, MeToo a fait son travail en partie. On peut considérer qu'il reste du chemin, mais en tout cas, un certain nombre de choses ont évolué. Savage Fenty, Rihanna aux États-Unis est arrivé un peu après avec une proposition qui était quand même très bold sur le sujet et qu'elle incarnait pleinement. Et puis au bout d'un moment, ces sujets de là, on a parlé de sex-positivité, mais de positivité de manière plus large, en fait. Je pense que le tournant pour nous, il est vraiment en 2019. Là, on a vraiment vu. Hein. Nous, on a eu une campagne, je pense qu'on a été assez précurseurs sur le sujet. On a eu une campagne très forte qui a été assez vue et pas mal commentée à ce moment-là. Et derrière, on a vraiment vu une sorte de mouvement. Victoria's Secret a commencé à connaître des difficultés, marre des VS Angels, marre de tous ces codes-là. Et depuis, c'est quand même la descente aux enfers. Et libre à chacun de penser
ce qu'il
veut.
Ce qui est plutôt pas mal pour vous.
Mais voilà, donc on a. Enfin, ça a fini par. Et puis aujourd'hui, c'est une sorte de. Enfin, on pourra s'en reparler, mais c'est une sorte de nouvel étalon ou standard qui charrie aussi ces stéréotypes.
Oui.
Qu'on essaie d'éviter, parce exactement. Que de manière générale, on est plutôt contre toutes les injonctions et on essaie d'enrichir nos propositions et souvent de. Voilà, de prendre le contre-pied de quelque chose qui commencerait à s'installer aussi parce que je pense qu'on est tous porteurs et représentatifs d'une société qui bouge, qui est en mouvement, qui se questionne, qui évolue. Mais tout ça prend racine dans des convictions assez fortes.
Avec aussi des nouveaux censeurs, au sens où on l'a évoqué, il y a évidemment votre propre communauté qui peut à certains moments vous faire remonter des choses positives ou négatives, mais il y a aussi ces censeurs, les GAFAM, qui globalement, les réseaux sociaux sont d'indispensables outils de médiums dans lesquels vous ne pouvez pas vous passer, mais ils décident de règles qui sont souvent dictées par les États-Unis avec un puritanisme que l'on connaît. Comment vous faites face aux règles? Comment vous vous adaptez au fait que vous pouvez être censuré pour la représentation? On ne parle même pas d'image, mais la représentation d'images, le dessin, simplement de choses qui peuvent être qualifiées de pornographiques.
Nous, chez Carnet Bolente, en tout cas, on trouve toujours que la contrainte à ce niveau-là est très drôle et qu'on peut souvent la détourner assez facilement. Enfin, sur Instagram, il suffit de mettre 3 pixels beige sur des tétons pour que ce soit plus censuré, donc... À partir de ce moment-là, tu peux en faire une force, faire des blagues
et se débrouiller.
Le contourner extrêmement facilement. Par exemple, nous, un moment, on voulait les mots « dick » et « vagina » ne passaient pas. Il suffisait de mettre une étoile à la place du « i » et ça passe et ça tout le monde sait très bien de quoi on parle.
Et donc, ça crée un nouveau langage aussi, ça crée une nouvelle esthétique.
Exactement, et c'est même chouette de jouer ça comme ça, mais ça n'a jamais été une grosse contrainte, honnêtement. Bon, si sur les tout ce qui est contenu financé, payé, les paid ads, etc., ils sont très sévères, mais...
Mais pour le reste, vous slalomez avec.
Ouais, c'est...
Pour vous aussi, Fanny?
Parfois, oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça un peu de l'ordre du ridicule, plus que du tragique. Et simplement, parfois, les produits sont strikés aussi. Donc, du coup, on ne peut pas les taguer dans certains posts qui sont, dont l'image est considérée comme attentant à la pudeur. On les appelle. En vrai, on n'arrête pas. En fait, moi,
Vous êtes en lien avec Instagram.
On défend votre cause. On fait remonter les requêtes, on trouve des numéros et finalement, ça passe, en fait.
Donc, vous nourrissez aussi, vous apprenez aussi à ces strikers, à ces intelligences artificielles qui strikent, à ouvrir l'esprit. C'est votre pédagogie.
Je ne sais pas si on a cette ambition.
C'est très automatisé. Donc, souvent, c'est montrer l'absurdité de cette automatisation.
Absolument.
Quand on peut avoir un nu un tout petit peu flouté par rapport à une illustration très soft. Qui, elle, va se faire striker. Ça manque de sens, souvent.
Et pour vous, Chantal, parce que vous ne pouvez peut-être pas biaiser de la même manière, ruser de la même manière que des marques qui sont plus jeunes et qui peuvent faire des blagues. Vous avez un autre langage.
C'est un peu plus complexe pour nous. Effectivement, on flirte entre... Tout dépend comment on appréhende la lingerie. Est-ce que c'est dénuder le corps ou est-ce que c'est, au contraire, habiller le corps avec ce paradoxe qui est que, on l'a dit, le sexe et le sexy fait vendre, en fait, et continue de faire vendre, et sur les réseaux sociaux, performe. Donc un post un peu male gaze ou en tout cas au premier regard un peu dans ce côté femme objet, c'est tout de suite le carton assuré, ce qui peut être un peu désespérant, mais on est vigilant sur ce qu'on pousse, comme vous l'avez exprimé peut-être de manière un peu différente, mais on arrive à trouver notre voie là-dedans. Ce qui peut être un peu régulier, un peu pénible, c'est d'être que le compte, on est rarement censuré, on peut l'être un peu sur les ads en effet. En revanche, on est souvent shadow banned et ça c'est un peu pénible. Et donc en général, on archive les posts qui ont posé problème. Et puis comme on a un flux un peu continu de contenu, de toute façon, donc il faut c'est pour nous l'enjeu, il est plus là.
Et vous n'avez pas l'impression qu'on va vers plus de puritanisme particulièrement sur les réseaux ou quelque chose comme ça?
Je pense qu'aucun combat n'est acquis. Et que le militantisme est constant, j'ai compris ça tard, et que c'est jamais fini, quoi. Et du coup, je sais pas. Mais il y a des sujets qui s'ouvrent, il y a des sujets qui se ferment. Je crois que c'est un constant mouvement.
On va parler justement de la dimension politique que vous servez chacune et chacun. On écoute juste un tout petit peu de musique.
Se pare na.
On est toujours depuis la Fédération française du prêt-à-porter féminin, la Love Room, où l'on discute de sexualité dans la mode, avec notamment donc Fanny. Vous représentez cette superbe marque de bijoux, Bengla Begum, mais pas que. Vous avez sur votre site une petite, si on se balade un peu, je vous invite à le faire, une petite bibliothèque idéale qui est composée de livres qui ont formé votre bagage créatif. On y trouve des autrices très diverses comme Despentes, Duras, Ernaud, Sylvia Plath, Bell Hooks, Toni Morrison. Quelle est l'idée de mettre une petite bibliothèque à quelqu'un qui viendrait acheter une bague? Quelle est l'envie? Est-ce que c'est de se dire que non seulement vous suscitez le désir, mais vous amenez aussi les gens vers autre chose?
Alors oui, absolument. C'est alors cette petite bibliothèque qui a pour thème en ce moment, mais il y en aura d'autres, les femmes qui écrivent. Déjà, j'avais besoin d'un thème, sinon je me noie. La littérature, ça fait tellement partie de ma vie que il me faut un axe, sinon c'est trop. C'est quelque chose qui m'est très cher. Et en fait, l'idée pour moi, c'est que en fait, quand les marques donnent quelque chose, j'ai quand même toujours bien l'impression que c'est elles qui y gagnent. C'est-à-dire que quand elles donnent quelque chose, il faut donner en échange son email ou donner des infos, et que finalement, en fait, cet échange qui est toujours transactionnel, il est toujours au bénéfice, au fond, de la marque. Et moi, j'avais vraiment envie de donner quelque chose, en fait.
De vous.
De moi, et en fait de le donner et de d'une certaine façon larguer quelques amarres de ROI, parce qu'on est des marques principalement digitales, et en fait tout se mesure, tout se chiffre, et j'avais envie de quelque chose qui ne se chiffre pas. Okay. de larguer ça un peu au monde, et ce cadeau en fait il m'était cher aussi parce que je suis convaincue que les gens ont soif d'être stimulé et qu'on n'a pas du tout besoin d'être surdiplômé ou d'avoir fait de grandes études pour être emporté par les textes de ces femmes. Et j'avais envie de faire ce cadeau à tout le monde,
à
en
qui
fait.
Le voudra. Et c'est aussi c'est l'idée ça. Que le désir dont on parle, le beau, l'esthétique, c'est quelque chose qui est déconstruit et reconstruit grâce à la littérature, le roman, mais les essais, etc. Et vous amenez aussi vos acheteurs, acheteuses, vers cette co-construction d'une nouvelle,
oui.
d'une nouvelle manière de voir le beau.
Oui, vers ce monde, en fait. Je considère que mon travail, je le considère, on me le dit beaucoup d'ailleurs. Je ne me permettrai pas de le dire, je pense que je préfère faire et qu'ensuite on me raconte ce que les gens lisent de ma marque. Mais on me dit beaucoup que c'est un monde plus que seulement un produit, et j'avais envie d'ouvrir des portes sur ce monde qui est très littéraire.
Et vous le faites aussi avec le nom des pièces que vous proposez.
Oui.
Elles ont, je vais les citer, Carl Gustav Dante, donc là c'est un mash-up entre pas mal de personnes, le Jardin des Délices, donc du tableau de Jérôme Bosch qui a une infinité de possibilités sexuelles notamment, et vous avez une bague magique qui raconte une histoire sexuelle. Racontez-nous un peu cette pièce, et puis dites-nous comment est-ce que vos acheteuses et acheteurs vivent les histoires que vous racontez.
Alors, la bague magique que j'ai créée au tout début de Bengla Begum, en fait c'est une chevalière qui est de la glyptique, c'est-à-dire qu'elle est gravée sur de la pierre, et c'est une technique déjà qui est très très rare, qu'on trouve quasiment plus en France. J'ai dû aller en Italie pour trouver une glypticienne. Et en fait la glyptique, ou l'héraldique, en fait l'héraldique c'est un langage
des
symbolique
symboles.
C'est ça, qui appartient à tout le monde, mais qui a été hijacké, on peut dire, par l'aristocratie pour raconter des histoires de bataille au XIVe siècle. Mais on peut s'en servir pour raconter absolument n'importe quelle histoire, et j'ai voulu m'en servir pour raconter une histoire de cul.
C'est un langage crypté qui s'adresse à
un langage symbolique, c'est ça. Donc j'ai raconté une histoire de cul avec ce langage, et l'histoire que je propose, et vraiment c'est une proposition, c'est pas une définition, mais j'ai proposé cette histoire qui était que il y a des saisons dans la vie sexuelle qui se succèdent, mais il y en a que deux. En fait, c'est soit bien, soit pas bien.
En
donc il y a
quoi,
l'été ou l'hiver.
Mais les étés, les hivers sexuels.
Il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne, en fait. Il n'y a pas de un peu bien ou un peu pas bien. Okay. C'est soit bien, soit pas bien. Donc j'ai voulu proposer cette histoire en symbole. Et les gens
le reçoivent.
Et en fait, je pense qu'au-delà de l'histoire que ça raconte, c'est le langage qui est utilisé.
Et c'est le possible que ça crée aussi.
Et qui les intéresse, absolument. Et c'est s'approprier un code, en fait, qui avait été approprié par une classe, en fait, assez restreinte, en fait, et pouvoir se le réapproprier et jouer avec, en fait.
Et votre public, quel type de public vous avez? Quel âge elles ont? Enfin, est-ce que vous arrivez à savoir précisément?
Oui,
ça?
Oui, bien sûr. Alors, c'est surtout des femmes. Je dirais que c'est 85 à 90% des femmes, mais cette tendance s'inverse autour du 15 novembre. Tout d'un coup, nos commandes sont des hommes qu'on sent téléguidés.
C'est Noël qui arrive.
C'est Noël, okay. Et on sent qu'ils arrivent avec des liens, ils arrivent avec des screenshots.
Une liste de cadeaux.
Finalement, ça reste des femmes à travers des hommes, mais c'est surtout des femmes. Après, on a quand même à peu près 15% de notre clientèle qui sont des hommes qui portent nos bijoux, et alors ça j'adore.
Et en termes d'âge, parce que c'est un enjeu de rester une marque dans le viseur pour la jeunesse et pour la future génération, c'est quel âge à peu près vos...
Nos clientes, elles ont entre 30 et 50 ans.
C'est aussi une question peut-être de pouvoir d'achat
moyens,
et de moyens qu'on ne peut pas, on ne peut pas ignorer. Alors Chantelle, votre enjeu aussi, c'est de revenir une marque qui représente les préoccupations de la jeunesse. On le sait, c'est des préoccupations qui alors, évoluent rapidement, mais il faut rester à ce fait-là. Comment vous faites quand on a une marque comme celle-ci, justement, pour garder un contact avec ce qui intéresse, intrigue, excite, plaît à une jeune génération?
Je pense que alors on a deux axes. Le premier, c'est un lien fort avec la jeune création. Parce que je suis convaincu qu'il et elle sont l'avenir et qu'il est important pour nous d'essayer d'apprendre à leur côté. Ils ont beaucoup à nous montrer. Et puis, quand c'est possible, d'essayer de les accompagner. Donc, on a différentes formes de collaboration avec un certain nombre de jeunes marques. Ça peut s'exprimer. On a lancé une marque plutôt sur les codes du sexe et du sexy et de la séduction qui s'appelle Chantelix, avec laquelle on a fait différentes collaborations. On a défilé plusieurs fois à l'occasion de la Fashion Week. La dernière en date, c'est une marque que j'adore et je les salue d'ailleurs, Esther et Balthazar, Esther Manas, emmenée par un couple franco-belge dont on parle beaucoup et avec qui on a défilé sur leur dernier show qui d'ailleurs annonçait leur mariage. Donc c'était quelque chose d'assez chouette. Et puis, on a développé ensemble une mini-collection. Donc c'est un des moyens. Et puis, il y a aussi une marque qui s'appelle Victoria Thomas, enfin bref, un certain nombre de marques avec lesquelles on travaille. On a ensuite, parce qu'on possède notre propre outil industriel, on a nos usines, et on en a notamment une à Épernay, pas très loin d'ici, en France, et via laquelle on accompagne un certain nombre de jeunes marques, lingerie, mais pas que, qui cherchent, alors en général plutôt franco-françaises, mais pas toujours, qui cherchent à produire des petites séries, qui cherchent à faire du made in France, et qu'on est capable d'accompagner dans une logique un peu comme ça de pépinière de talent. On les accompagne sur la prod, mais aussi sur le développement. On leur met à disposition des stocks matières parce qu'on est pas mal engagé sur les sujets d'upcycling et d'éco-responsabilité ou les sujets environnementaux. Voilà, donc ça c'est un premier axe. Et puis il y a un deuxième axe qui est, on a lancé un magazine il y a 3-4 ans maintenant qui s'appelle Common Language, donc langage commun, qui est vraiment devenu une plateforme et un objet à part qu'on vend dans tous les art bookstores et les librairies d'un certain nombre d'institutions, la Fondation Alaïa, le Palais de Tokyo, Yvon Lambert, et puis là on a lancé à l'international, donc on est présent un peu partout, et qui là est vraiment, alors qui se préoccupe plutôt des sujets sur lesquels on pense avoir une forme de légitimité, mais qui est vraiment un outil pour aller interviewer, parce que dedans on retrouve des interviews, des articles, et puis des séries photos, et travailler et collaborer avec un certain nombre de talents émergents et un certain nombre de personnalités dont on pense que la voix compte.
Et alors, dans un salon comme celui-ci, il y a un salon connexe où c'est spécialement dédié à la lingerie. Qu'est-ce que vous flairez de l'époque, du futur des désirs, du futur du beau, de ce qui intrigue et intéresse cette jeune génération?
Donc je pense qu'il y a c'est intéressant. La lingerie est un secteur en profonde mutation et transformation. Ça peut donner le sentiment ces dernières années que c'est un secteur assez chaotique. Et il est vraiment dynamique. Il est très dynamique et il est dynamisé et porté par la jeune création qui de cesse de nous surprendre, qui peut aller sur une variété de propositions. Alors il y a eu beaucoup de choses autour du confort, de l'hybridation, de ce qu'on a appelé le loungewear, le lifewear, etc. Et puis là, ce qu'on note, en tout cas ce qui me frappe sur ce salon, et je vous invite vraiment, celles et ceux qui le peuvent, à aller voir la zone exposed sur le salon de la lingerie, qui sont que des jeunes marques, c'est un retour d'une lingerie plus théâtralisée, plus fétichiste, un retour du rétro, d'une lingerie plus contraignante, donc à l'opposé de...
Les pièces, par exemple, typiques, ce sont...
Des corsets, des culottes hautes, des gaines, et voilà, et une forme d'évasion par la théâtralisation d'un univers très sexualisé, assez rétro et qui s'amuse à flirter avec les codes.
Ce qui va aussi avec une certaine littérature, c'est marrant, on parlait de littérature qui peuple un peu votre univers, mais les corsets avaient une place dans la littérature et dans la théâtralisation de la sexualité pas si on lit les ouvrages, les grands ouvrages du 19e ou du 20e siècle. Enfin, c'est ce qu'on retrouve. Et alors, il y a aussi l'idée des... À quoi ça sert les pop-up et les petites collections? Ça sert à cibler plus précisément ce public-là et d'essayer des choses, d'oser, vous aussi?
Oui, complètement. C'est vraiment un espace d'expérimentation, en fait, et un laboratoire. Et on tient vraiment à cette forme de liberté et cette philosophie un peu du test and learn, quoi. Donc, voilà, on tente des choses et on apprend. Donc, ça peut se faire dans le cadre des collaborations. Ça se fait dans le cadre des pop-up. On en a eu un dans le Marais, là, pendant 4 mois, où on a décidé de mettre l'accent sur une partie de nos collections et voir un peu comment ça réagissait. Ça donne à voir aussi la marque, Chantel, et nos propositions sous un angle un peu différent, aller effectivement capter de nouvelles populations. Voilà, donc c'est tout ça. On tente des choses, on essaie de comprendre le monde dans lequel on vit, on essaie d'imaginer un futur, tout en préservant, ce qui est notre gros enjeu pour une marque historique, notre clientèle historique. Voilà, donc c'est un peu le sens de ces actions.
Ça approche quand même la notion du tabou, le tabou qu'on a personnellement, parce qu'on est aussi des humains, enfin vous êtes des humains avec vos propres choses que vous vous interdisez. Vous, à Carnet Bolente, est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes déjà interdites de faire parce que finalement c'était trop ou ça ne correspondait pas?
Faut dire qu'on a une approche assez soft dans la représentation. L'idée a jamais été de choquer, plutôt d'inviter à partager, discuter. C'est ce qu'on nous dit souvent sur nos vêtements, c'est que ça va être un point de départ pour une discussion ou un sourire, ou ça c'est un mini truc que ça crée et sur lequel derrière il va probablement se passer un échange humain ou quelque chose. En termes d'autocensure, j'ai pas ce souvenir là. On a rarement voulu faire des choses trop trash parce qu'on s'est aussi rendu compte de ce que les gens sont prêts à porter, de ce que les gens peuvent porter au bureau, en famille.
De la décence, en fait.
Ouais, aussi, c'est ce niveau-là. Et je tenais à le dire, quand on parle beaucoup de sexpositivité, ça inclut aussi le fait d'avoir le droit de ne pas vouloir de sexualité. Et c'est assez important, c'est qu'on ne veut pas à tout prix sexualiser, c'est ouvrir la discussion à ceux qui le veulent.
La jeune génération, notamment, est très... Enfin, il y a eu plein de débats médiatiques dernièrement sur est-ce que les jeunes font encore l'amour. Et je pense que c'est un effet des médias là-dessus. Mais il y a quand même l'idée de ne pas recréer de nouvelles injonctions. Ouais. Et vous, Carnet Bolente, c'est quelque chose que vous avez en tête.
C'est un gros sujet en ce moment où on réfléchit beaucoup à notre identité de marque. Ça fait 8 ans et beaucoup de choses ont changé en 8 ans. Et on se définit comme une marque sexpositive, ce qui, dans les fondements, je pense, on l'est. Mais sur ce terme, on s'interroge beaucoup parce qu'on ne sait pas s'il n'est pas un peu old school, en fait. et justement, si pour certaines nouvelles générations, ce n'est pas encore une injonction.
Ouais.
À devoir libérer sa vie sexuelle, à devoir se sentir bien dans son corps, c'est évidemment des choses qu'on souhaite, mais ça reste une injonction.
On va continuer à discuter, ça va toucher à la fin de notre conversation, mais d'abord un peu de musique.
Quand tu poses tes mains, ton index, ça va trop vite. J'aime quand c'est physique, quand tu t'agites. Donne l'adresse, bouge tes fesses, tendre sexy, ça devient électrique. Contre toi chaque soir et tu sais que j'ai trop envie que tu tournes la page avec tes doigts même. Position Gigi Chippy souple, please switch de position. J'aime quand c'est intense à mort, c'est quoi tes conditions? Je n'achève quand ton monte, mais j'aime quand tu descends. C'est oui ou non? Big body call extendo. J'aime quand tu joues avec tes doigts Nintendo. Combat à mani, on se bat sans le condom. Y'a pas de gâteau pour les mecs random. Pam-pam-pam-pam, shake it body comme dans les tam-tam. Gucci Cali, pourquoi ça t'étonne? Angie chérie, j'aime les meufs en femme. On va ram-pam-pam-pam-pam, shake it body comme dans les tam-tam. Gucci Cali, pourquoi ça t'étonne? La Zoli, babe, j'aime les meufs en femme. Ah, oh, Candyman, veux savoir quelle salance cache ou le pain. Tu veux que je retire mon emballage? Je suis curieux, je veux goûter ton glaçage. C'est mon domaine. Wine, je suis un spécimen. Boom man. On recommence comme back again. Boom man. Wine, je suis un spécimen. Boom man. On recommence comme back again. Big body call extendo. J'aime quand tu joues avec tes toits Nintendo. Combat à mani, on se bat sans le condom. Y'a pas de gâteau pour les mecs random. Pam 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 pam.
chaque body comme dans les tam-tam. Bouti Cali, pourquoi ça t'étonne? Angie chérie, j'aime les meufs en femme. On va ram, papa, pam, pam, pam. Chaque body comme dans les tam-tam. Bouti Cali, pourquoi ça t'étonne? La Zoli, babe, j'aime les meufs en femme. Big body, can extendo. If the body big, make that roll. If the pussy wet, make him crawl. Make him crawl. Make him crawl.
Alors que notre conversation commence à toucher à sa fin, conversation sur la sexpositivité, qui est évidemment une des tendances, on peut se poser la question, qui dit tendance dit peur du retour en arrière, peur du backlash. Et c'est peut-être pour éviter ça, en tout cas pour construire quelque chose de pérenne, que vous avez chacune et chacun l'envie d'ancrer les choses plus politiquement, notamment Carne Bolente. Vous travaillez avec AIDS, enfin en tout cas vous reversez une partie de vos fonds à AIDS. Comment est-ce qu'on fait en sorte justement d'être pérenne et de faire quelque chose qui ne passera pas de mode?
C'est impossible de ne pas passer de mode, et je pense que c'est bien, ça veut dire qu'il y a du changement. Mais sur le fait d'entreprendre des actions parallèles, je crois que pour les trois marques qu'on représente ici, c'est un moment, un espèce de choix logique et d'envie simple de pas juste être dans une dynamique de profit et de évidemment il y a cette notion là il faut pas
vous restez des marques,
bon voilà, ça reste
pas un hobby.
Ça reste une entreprise commerciale, mais c'est important pour nous, ça a toujours été important de soutenir différentes causes ou statuts, statements. On a beaucoup travaillé avec Erika Lust,
réalisatrice de films pornographiques féministes
et indépendants, ouais, et c'est hyper important, et AIDS c'est une super collaboration pour nous qu'on continue depuis très longtemps, et qui ont, en plus, je me permets de communiquer là-dessus, qui organisent les grandes braderies de la mode deux fois par an, qui permettent aux marques de donner les invendus pour pas gâcher et revendre ça pour permettre de financer la recherche.
Et alors à Chantel, comment on fait? On sait que l'intime est politique par définition, mais comment est-ce qu'on s'ancre en plus?
Je pense que l'enjeu c'est d'essayer d'être pertinent. Alors passer de mode, on le sera effectivement sans doute. Donc ça, ça se nourrit au quotidien avec aussi, je pense. Enfin moi je crois beaucoup, et là le salon est un moment intéressant d'être en contact en fait avec nos clientes. Parce qu'elles ont pas mal de choses à nous apprendre, et puis pour essayer de pérenniser ça dans la durée, je pense, c'est d'abord, en tout cas pour un groupe comme le nôtre, ça s'ancre d'abord dans des valeurs en fait, et elles sont le socle de tout. Peut-être que ça s'exprimera de manière différente à travers les décennies et les époques, et d'ailleurs quand on regarde l'histoire, c'est ça qui est fascinant, je pense, en tout cas chez nous, moi c'est ça qui me fascine, le fait de rejoindre une maison qui a presque 150 ans d'existence, et quand on regarde l'histoire, ça invite un peu à l'humilité, et on se rend compte en fait qu'un certain nombre de combats actuels, ils ont déjà existé, il y a beaucoup de choses qui ont déjà existé,
et ils ont été backlashés aussi,
et ils ont été plus ou moins portés, et ils se sont exprimés de manière différente, et les moyens ne sont pas les mêmes en fait. Donc c'est pour ça que la lecture qu'on en fait n'est pas forcément la même. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui étaient là en germe et qui se sont exprimées de différentes manières. La question du sexe, la question les droits des femmes, la question de la parole. Ces sujets ne sont pas nouveaux, en fait. Donc je me suis perdu dans ce que je voulais dire.
C'est pas grave, c'était très intéressant parce que ça permet d'aborder la notion du conservatisme. En fait, on est quand même à une époque où politiquement, si on s'intéresse à ce qui se passe en Europe, si on s'intéresse aux États-Unis, même sur les réseaux sociaux, il y a des nouvelles figures très traditionnalistes, conservatrices, rétrograde, qui émerge. Est-ce que ça vous fait peur, vous? Alors personnellement je peux l'imaginer, mais même d'un point de vue de ce que vous représentez et ce que vous incarnez, comment est-ce qu'on se bat contre ce conservatisme qui revient?
Alors moi ça me fait très très peur personnellement, et on en parle souvent avec ma toute petite équipe. Il y a les optimistes et il y a les pessimistes, et moi je suis plutôt très pessimiste. Je dirais que ce qui m'aide, c'est de me dire que il faut un peu d'humilité. Il faut en fait à la fois paradoxalement du courage et de l'ambition, mais aussi de l'humilité, c'est-à-dire accepter que à notre niveau, ce qu'on fera sera peut-être anecdotique, mais que si on a touché quelques personnes,
c'est déjà
un succès. Et c'est ça que j'essaye de mettre en œuvre. Je me suis déjà pris la tête il y a quelques années avec un mec dans un bar qui me soutenait qu'en fait un artiste devait vouloir changer le monde, sinon c'était pas vraiment un artiste. Et je soutenais quant à moi qu'en fait plein de grands artistes n'avaient pas du tout cette ambition et que s'ils émouvaient une personne, c'était déjà un cadeau.
Il y a changer le monde, changer le beau, changer déjà le ne serait-ce que la sexualité d'une personne, c'est déjà énorme. Et pour vous, Renaud, puisque c'était vous qui avez lancé ce sujet du conservatisme.
Sur la question de l'optimisme, je crois personnellement, je suis sans doute un désespéré hyper optimiste. Donc en fait, une fois qu'on a touché le fond, après, c'est que du... Donc en fait, je suis bien sûr que l'époque est anxiogène, bien sûr que le futur fait peur, on va voir un peu. Mais en même temps, encore une fois, à nouveau, quand on regarde l'histoire, je pense que le futur a toujours fait peur, en fait, à différents égards. Et de toute façon... on n'a pas le choix, donc il va falloir s'y confronter. Et donc effectivement, la parade, je pense souvent, c'est l'action en fait, et c'est d'essayer à son échelle de contribuer d'une manière ou d'une autre. Ce qui nous semble, parce que ça peut varier bien sûr selon les personnes, donc j'imposerai rien, mais en tout cas ce qui moi me semble pertinent et qui me semble faire avancer les choses, encore une fois à notre modeste niveau, dans le bon sens quoi. Voilà.
Je suis d'accord avec vous et vous œuvrez. Chacun, chacune ici autour de la table à rendre les futurs plus désirables. Merci beaucoup pour la conversation.
Merci.
Il va être l'heure de remercier toutes celles et ceux qui ont permis à cette Love Room et à Nick La Radio de parler un peu. Merci à Lucie Lossel qui est à la réalisation. Merci Christophe Payet à la coordination. Infini merci à la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin, Alexandre Spizer, Thibault Ledunois, Emma Debouchny et au Salon Who's Next. Et merci donc pour cette conversation qui est à retrouver en podcast sur notre site Nick La Radio. C'est une web radio, elle porte bien son nom aujourd'hui. Une web radio, des podcasts pour les marques et pour vous, de quoi mieux danser, mieux penser. Nick.radio. À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Nick La Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.